Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. C'est la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. 33 9 693 693 70, où que vous soyez à travers le monde, rejoignez-nous et venez lancer le débat en direct sur notre antenne. Vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter ou sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Parmi les réactions standard, nous avons reçu celle de Kenjiro. Il nous appelle de Bamako. Bonjour Kenjiro.
Bonjour Juan.
Vous êtes ivoirien, vous nous appelez donc du Mali, et vous, vous réagissez à la menace djihadiste, la menace dans Sardine, puisque ce groupe a clairement annoncé ses intentions de frapper désormais la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, qui étaient jusqu'à présent deux pays épargnés par ces violences. En Sardine veut punir la Mauritanie et la Côte d'Ivoire de travailler avec les ennemis de l'islam, en référence notamment à la France, hein, qui conduit en ce moment l'opération Barkhane qui traque les djihadistes à travers le Sahel. Et vous souhaitiez témoigner un peu de l'état d'esprit aujourd'hui des Maliens après donc les nouvelles menaces en Sardine.
Oui, Juan, ce que j'ai constaté pendant ces événements, et le Mali est tellement mal sécurisé. Ça fait que aujourd'hui, ces frontières sont devenues comme des passoires. Aujourd'hui, vous avez au Mali les djihadistes qui se déplacent en moto aujourd'hui. Ces motos ne sont même pas immatriculées. Et en plus, ils n'ont même pas de permis de deux roues. C'est tellement facile de se faufiler et on ne sait pas à qui on a affaire aujourd'hui à des checkpoints. Maintenant, concernant aujourd'hui Abidjan et la Côte d'Ivoire, au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire, vous aviez des jeunes qui ont participé à la guerre en Côte d'Ivoire. On a au moins 550 000 à 300 000 jeunes qui ont participé à la guerre en Côte d'Ivoire. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ils peuvent prendre des armes contre la Côte d'Ivoire.
Ouais, enfin, je ne sais pas, Kenjiro, je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres et ces estimations, mais effectivement, il se trouve que le président de la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale disait il y a quelques jours, de l'Assemblée nationale ivoirienne, disait il y a quelques jours, que les ex-combattants du nord de la Côte d'Ivoire étaient potentiellement susceptibles de pouvoir rejoindre les rangs dans Sardine. En tout cas, on voit bien la mobilisation de part et d'autre, hein, de la frontière. L'armée ivoirienne s'est déployée le long de la frontière malienne. L'armée malienne a lancé une opération de ratissage de l'autre côté de la frontière. Vous avez malgré tout confiance dans les forces de sécurité de ces deux pays ?
Et Juan, aujourd'hui, j'ai pas trop confiance à la sécurité de ces deux pays, parce qu'aujourd'hui, ces jeunes, aujourd'hui, au niveau de du Mali, vous avez vu que lorsque Ansardine est rentré en sur le territoire malien, ils ont eu la bénédiction de ces jeunes-là. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, c'est l'argent qui est aujourd'hui les premières priorités. Aujourd'hui, s'ils ont l'argent, ces jeunes-là maîtrisent ces pays-là, ces deux pays, la Côte d'Ivoire et le Mali. Si ces jeunes-là aujourd'hui sont en possession d'argent, aujourd'hui, ces jeunes-là peuvent faire des attentats en Côte d'Ivoire ou bien sur le sol malien.
Ouais, en tout cas,
les Ivoiriens aujourd'hui.
Ouais. Oui, allez-y, oui.
Aujourd'hui, si on veut voir ces jeunes-là, ils n'ont pas désarmé, ils n'ont pas encore désarmé parce que le programme de désarmement en Côte d'Ivoire a été stoppé. Et aujourd'hui, ces jeunes, ils ont des armes aujourd'hui. Ils n'ont pas été désarmés. Donc ça veut dire que...
Si oui, qui représente une menace, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Et effectivement, vous rejoignez les propos de ce député de l'Assemblée nationale ivoirienne. Kenjiro, merci beaucoup de nous avoir appelé de Bamako. On va revenir sur les expulsions des ressortissants du Congo Kinshasa vivant au Congo Brazzaville. Vous en souvenez certainement, il y a un an, entre avril et septembre 2014, près de 180 000 ressortissants du Congo Kinshasa ont été expulsés du Congo Brazzaville. Et il se trouve qu'hier, Amnesty International a publié un rapport rapport dans lequel l'ONG affirme que ces expulsions pourraient probablement constituer des crimes contre l'humanité. Bonjour Marien.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Brazzaville et vous réagissez justement à la publication du rapport d'Amnesty International.
Oui Juan, je réagis pour dire ceci, que l'opération Batabakolo dont Amnesty International a publié un rapport hier est une opération légale menée pour contrer le grand banditisme qui a été observé à Brazzaville depuis un certain temps. Mais cette opération a été organisée suite au grand banditisme appelé Kuluna qui a sévi de l'autre côté de la RDC.
Effectivement, officiellement, il s'agissait d'assainir le pays de la délinquance sous toutes ses formes. C'était les propos à l'époque du gouvernement. Alors que le gouvernement lutte contre l'immigration clandestine, qu'il lutte contre la délinquance, c'est une chose. Mais de là à ne pas respecter les droits de l'homme, on se souvient et on les a entendus sur notre antenne les témoignages de Congolais de Kinshasa arrivant du Congo-Brazzaville, disant avoir été maltraités, violentés, des femmes disant avoir été également violé, on peut lutter contre l'immigration clandestine tout en respectant les droits de l'homme.
Juan, vous avez tout à fait raison. Mais une ONG responsable comme Amnesty International, il ne faut pas se mettre tout de suite du côté de la victime supposée, qui sont les citoyens de la RDC qui ont été rapatriés. Nous vivons dans les quartiers. Moi, j'interviens pour dire que je vis dans Brazzaville et dans le quartier où il y a eu plein de sujets RDC qui y résidaient. De là à penser que le gouvernement du Congo a mené cette opération et a délibérément organisé cela pour ne pas respecter les droits de l'homme, je dis faux. Il y a eu des actes, certainement, de ces opérations menées par des forces de police, des actes punissables, isolés, mais ce n'est pas toute une organisation qui a été mise en place par la police congolaise.
En tout cas, Amnesty International est très sévère. Hein. Amnesty dit que les violences policières, les persécutions, les détentions arbitraires et les viols survenus dans le cadre de cette opération relèvent d'attaques généralisées susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité. Et d'ailleurs, Amnesty demande au gouvernement de la République du Congo de traduire en justice les responsables présumés de ces crimes du droit international. Vous souhaitiez une conclusion, Marien?
Oui, donc je dis que... Allô?
Allez-y, oui.
Allô, Juan?
On vous écoute, vous
donc,
êtes...
Je dis qu'il faut... Il y a eu des actes isolés qui ont d'ailleurs été d'ailleurs punis par la police congolaise, les autorités policières. Et donc, mais c'est pas toute une organisation qui a été mise en place pour agir de cette façon-là. Il y a des policiers véreux qui peuvent agir d'une certaine façon, mais la population congolaise... Les policiers en général n'ont pas agi et n'ont pas commis des crimes comme Amnesty International de qualifier des crimes contre l'humanité.
Merci Marien de nous avoir appelé de Brazzaville. 33 9 693 693 70. On va s'intéresser à la crise politique au Burkina Faso. Bonjour Dimitri.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes à Ouagadougou. Crise qui oppose le Premier ministre et les soldats du régiment de sécurité présidentielle, le fameux RSP, qui fut le corps d'élite de l'armée du Burkina Faso durant les 27 ans du régime de Blaise Compaoré. Eh bien, ces soldats exigent maintenant la démission du Premier ministre, ainsi que celle de tous les autres militaires du gouvernement de transition. Et vous vous dites, Dimitri, que ce régiment, il a beau être corps d'élite de l'armée, eh bien, ce régiment représente la menace la plus sérieuse pour le pays.
Ah oui, pour le moment, en tout cas, nous pensons que le RSP demeure une menace pour le Burkina Faso, dans la mesure où, si vous vous rappelez que le week-end passé dernièrement, les rumeurs couraient que certains éléments du RSP allaient attenter à la vie du chef de gouvernement. Donc, certains hauts responsables ont été interpellés par la gendarmerie pour être écoutés. Et vous voyez que dans la nuit du dimanche, et ils n'ont pas hésité à tirer en l'air pour exiger que ces éléments-là soient libérés.
Ouais. C'est vrai que tout est parti de l'interpellation de trois officiers de ce régiment qui ont été entendus par les gendarmes. Effectivement, il y avait depuis plusieurs jours des rumeurs disant que ce régiment voulait s'attaquer à la vie du Premier ministre. Alors, il y a tout le débat aujourd'hui. Il y a certains qui disent, mais tout ça, c'est un faux complot. Tout ça a été inventé de toutes pièces par le Premier ministre pour se maintenir au pouvoir. Qui dit vrai, qui dit faux, on ne le sait pas, mais le fait qu'ils prennent les armes, qu'ils tirent en l'air dans leur caserne et qu'ils exigent aujourd'hui la démission du gouvernement, vous dites que c'est trop. C'est trop et que ça met en péril la transition du pays.
Ah oui, parce que si toutefois le RSP est gagné à ce que le premier ministre démissionne et que certains membres du gouvernement militaire quittent la transition, ça veut dire qu'on remettait en cause l'achat de la transition qui est le fondement de la transition. Donc ça remettrait le Burkina Faso en arrière, la transition est menacée tout d'un coup et on ne pourra pas organiser les élections à bord à la date indiquée. Donc nous estimons tout simplement que les RSP aujourd'hui, avec ce que certains OSC estiment, que le RSP doit être tout simplement réorienté à d'autres missions au lieu d'assurer la sécurité.
Ouais. Il y a un vrai débat au Burkina Faso autour de l'avenir du RSP. Est-ce qu'il faut le dissoudre? C'est quand même, disait-on, le bras armé de Blaise Compaoré, le président burkinabé qui a été chassé du pouvoir en octobre dernier. Est-ce qu'il faut au contraire garder cette unité, peut-être la redéployer dans d'autres unités de l'armée? Bref, il y a de véritables interrogations sur l'avenir de ce régiment. Il sert encore à quelque chose, selon vous, le régiment de la sécurité présidentielle?
Le RSP est toujours important pour le Burkina Faso, mais pas pour assurer la sécurité du président. C'est quand même 1300 personnes pour assurer la sécurité d'une seule personne. Parce qu'on a vu les conséquences avec Blaise Compaoré. Il y a eu des assassinats au nom de cette armée-là. Donc, on peut bien réorienter les RSP à d'autres missions, contre le terrorisme par exemple, qui devient une chose sérieuse pour l'Afrique de l'Ouest. Les RSP fait, mais pas la présidence.
D'accord. Oui, la lutte contre le terrorisme, effectivement, d'autant que, rappelons-le, c'est un corps d'élite. Donc ce sont des soldats extrêmement bien formés. Merci Dimitri. Bonne journée à vous à Ouagadougou, où il est 8h51. Luc nous appelle de Kinshasa. Bonjour Luc.
Bonjour Gomez,
merci.
Comment tu vas?
Ça va, merci d'être avec nous. Quand je dis que vous nous appelez, c'est plutôt nous qui vous rappelons, puisque vous nous avez envoyé une réaction par courrier électronique. Vous souhaitiez profiter de la libre antenne pour rendre hommage à Pierre Kalala Mukendi, décédé à 75 ans. Il était l'une des grandes figures du football congolais et du football africain.
Vous l'avez dit, Juan, c'est certainement l'un des plus grands footballeurs africains des années 60 et 70. Kalala Mukendi, qui a tiré sa révérence sa semaine dernière, a été l'un des footballeurs les plus talentueux du Congo. Il était capitaine des Léopards qui a remporté la première Coupe d'Afrique des Nations en 68. Il était également capitaine du tout-puissant Anglebert Mazembe, champion d'Afrique en 1967 et en 1968. Et il sera quelques années plus tard entraîneur des Léopards. Kalala, dans sa vie professionnelle, n'a pas été seulement footballeur, il a été également formateur.
Oui.
On l'appelait même le géant.
Et on l'appelait. Alors il était géant en taille et on le surnommait le bombardier tellement il arrivait à marquer de buts.
Oui, c'était un vrai bombardier. Il arrivait à marquer parfois des 30, 40 mètres et c'était le terreur gardien de but des années 60. Lui-même disait qu'il avait un aura, il avait vraiment un sens de but inné. Et durant sa carrière, c'était un joueur exemplaire. Il n'a jamais reçu un seul carton rouge. Il a toujours donné des conseils aux jeunes pour leur dire il faut faire le sport, il faut faire le football, mais également il faut aller à l'école. C'était là son message direct. Toute sa carrière, aussi bien dans le monde du sport que au milieu des jeunes, de la jeunesse congolaise.
Alors en tout cas, moi je ne connaissais pas ce joueur, Pierre Makala Mukendi. Je l'ai découvert en recevant votre courrier électronique. Je suis allé sur Internet et effectivement, quand on regarde son palmarès, il est tout simplement impressionnant. Merci Luc de nous avoir appelé. Bonne journée à Kinshasa. La visite de François Hollande dans quelques heures au Cameroun. Bonjour Paul.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Edea, au Cameroun, sur place. Vous êtes assez critique, vous, à l'égard du président français?
Non, critique non, mais en fait, déçu, si vous voulez.
Déçu, alors.
Nous avons appris il y a quelques jours que le président Hollande venait visiter le Cameroun et c'était l'effervescence partout. Yaoundé a mis ses beaux habits, tout le monde pensait que la visite serait vraiment une visite d'État, mais quand à la fin nous avons appris que c'est une visite qui va durer 2-3 heures, on s'est dit c'est plutôt une escale qu'une visite d'État. Donc c'est plutôt une déception de la part des Camerounais qui espéraient quand même avoir François Hollande pour quelque temps.
Oui, enfin quand vous dites 2-3 heures, heures, officiellement c'est 5 à 6 heures je crois, hein, de mémoire. Et vous vous dites quoi, que c'est trop peu de temps sur place alors qu'il y a beaucoup de dossiers à aborder, c'est ça?
Ah oui, mais en dehors du fait que vous avez dit 5 heures, vous savez, l'aéroport de Yaoundé est à 30 km du palais présidentiel. Il faut au moins une heure pour aller, une heure pour revenir.
Oui.
Le temps de faire le protocole, je ne sais pas combien de temps, peut-être à tête ils auront, la petite, ouais. Le petit point de presse.
D'accord, donc vous êtes déçu. En tout cas, cette visite sera notamment consacrée à la lutte contre Boko Haram. C'est évidemment un dossier très important. Ça faisait très longtemps qu'un chef d'État français ne s'était pas rendu au Cameroun. Je crois que la dernière fois, c'était Jacques Chirac. Si je retrouve la date, mais dans les années 90, vous auriez souhaité que la visite soit consacrée à quelle thématique?
Oui, mais parce que vous parlez de Boko Haram, je pense quand même pas que pour régler ce problème, là, il faille que le président de la République française vienne au Cameroun pour 2 heures. On peut le régler d'une autre manière, avec la diplomatie, avec des envoyés spéciaux et tout ça. Mais non, on aurait bien voulu voir le président français écouter les Camerounais sur d'autres problèmes, les relations diplomatiques, les relations commerciales, les relations particulières. Vous avez par exemple au Cameroun, les gens ont un problème énorme pour avoir un visa, parce que pour avoir un visa, là, on vous demande quelquefois des pièces qui n'ont vraiment pas de sens. Et on est torpillé pour aller en France. Et on a des problèmes, par exemple, sur les différents projets que la France a au Cameroun et tout. Donc on aurait bien voulu que le président entende beaucoup de Camerounais et puis que cela améliore plutôt ses relations avec lui.
Bah écoutez, je ne sais pas si vous serez entendu. Merci à vous de nous avoir contacté du Cameroun. Plusieurs réactions et plusieurs coups de gueule, j'ai envie de dire, contre l'arrêt probable des guignols de l'info, l'émission satirique de Canal+, elle est menacée. En tout cas, c'est ce que disent les rumeurs. On devra en savoir un peu plus dans la journée, puisque les actionnaires du groupe Vivendi, propriétaires de Canal+, vont se réunir. Bonjour Belinda.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Kinshasa et vous êtes en colère face à la perspective de la suppression des guignols.
Oui Juan, exact. Je suis très en colère parce qu'on se lève pas un matin et on décide de supprimer un programme qui a une telle audience, quoi. Nous sommes abonnés Canal+, et en Afrique, nous payons notre abonnement, entre autres pour les guignols. Parce que ce genre de programme n'existe pas chez nous ici en Afrique. On n'a même pas en rêve, quoi. Alors, en les regardant depuis France, ça nous fait rêver. Ça nous fait rêver. On aimerait dire à la direction du Canal+ qu'on se lève pas un matin dans un pays comme la France, de l'égalité, de la liberté et tout ce que vous voulez, et on décide de mettre fin à un programme sans dire pourquoi.
Ouais. Et vous avez l'impression, Belinda, que c'est une sorte de censure?
Oui, des censures, mais pour des raisons, je vais dire, personnelles d'un certain monsieur et les marionnettes. Excusez-moi, je ne suis pas des gens, hein, je suis bien éduqué, oui. Mais seulement, je voulais dire ça, les raisons ne sont pas valables, ne sont pas fondées, que ça ne sert à rien, quoi.
Oui, enfin, certain monsieur s'appelle Vincent Bolloré, c'est quand même le nouveau patron du groupe Vivendi, propriétaire de Canal+, et bah, en tant que principal actionnaire, bah, il a quand même son mot à dire sur le contenu aussi des programmes. Biran, bonjour.
Oui, bonjour, Johan.
Vous êtes à Dakar et vous aussi, hein, comme Belinda, très en colère contre l'éventuel arrêt des guignols.
Oui, écoutez, Juan, moi je ne conteste pas à M. Bolloré, propriétaire de Vivendi, d'avoir un point de vue et de vouloir décider de ce qu'il va faire de son instrument. Mais je ne voudrais pas également que Bolloré nous conteste la volonté ou le souhait de maintenir une émission qui est un moyen de traitement intelligent de l'information avec une équipe intelligente et une équipe talentueuse.
300 personnes, il faut le savoir, travaillent dans les coulisses des guignols de l'information.
Oui, qui fait rigoler en même temps. C'est un peu comme le canard enchaîné dans une version journal hebdomadaire.
Ouais.
Mais je vais même plus loin. Cette sinistrose-là de traitement et de partage de l'information, non seulement de française, mais économique et politique, mais également du monde, parce que les guignols traitent de tout.
Effectivement. Bon, on en saura plus d'ici la fin de la journée. Restez à l'écoute des RFI. On vous tiendra évidemment au courant. Lundi, vos questions à la rédaction, émission.